toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Léa Mormin-Chauvac, mais aussi Tiffaine de Rocchini, Samuel Bernard, Caroline Bonin, réalisée par Alexandre Fougeron et mise en onde ce matin par Anthony Thomasson. Suite de notre série consacrée aux espaces souterrains, après avoir évoqué hier la question des tunnels dans les situations de conflit, on va se pencher sur leur dimension urbanistique. La ville est aujourd'hui lieu de vie de plus de la moitié de la population mondiale, mais ce mode de développement n'est pas sans conséquence pour l'environnement, l'économie, la société. Le courant de pensée du développement durable a fourni de nouvelles armes aux promoteurs de l'aménagement des espaces souterrains en milieu urbain, et de nombreux promoteurs immobiliers et planificateurs à travers le monde s'intéressent à l'évolution de ces réseaux, apparus notamment du côté du Canada et des États-Unis au cours des 50 dernières années. La ville souterraine au cœur du développement durable, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Montréal, une ville superbe, moderne et vivante, qui grouille d'énergie et brille comme une perle pendant les glorieux mois d'été. Cependant, lorsque les griffes vicieuses de l'hiver s'agrippent à la ville, Montréal devient un infernal paysage de glace et de neige. Il n'y a qu'un seul refuge à l'hiver montréalais. C'est la ville intérieure!
On pourrait y vivre des semaines sans avoir le besoin matériel de remonter jusqu'au premier plancher, comme disent les Canadiens dans leur langage fleuri.
Nous avons ici le couloir en zigzag. Bon, peut-être pas un zigzag, mais complètement. Nous avons aussi notre ami, la marche électrique, ou l'escalator, autrement appelé.
Formidable, très moderne et très très beau. J'invite tout le monde à venir visiter.
On descend, on va dans le bas de la ville, ça prend environ 12 minutes. C'est presque incroyable. Ça fait trois fois environ qu'on fait le parcours et on le croit même pas.
Eh oui, Montréal, probablement l'une des villes les plus en avance sur l'utilisation de l'espace souterrain, ce qu'on appelle là-bas la ville intérieure, officiellement réseau pour réseau piétonnier souterrain, a émergé il y a plus de 50 ans maintenant et offre aujourd'hui une grande diversité de fonctions, avec plus de 33 km de corridors, des dizaines de bâtiments, bureaux, universités, centres commerciaux, résidences qui sont reliés les uns avec les autres, avec des centaines d'accès. La ville de Montréal renferme le plus grand complexe souterrain du monde, fréquenté par quelque 180 millions de personnes chaque année qui peuvent ainsi éviter les intempéries de l'hiver québécois. Alors d'autres villes pourraient-elles, devraient-elles suivre cet exemple ? L'espace souterrain pourrait-il à l'avenir offrir un nouveau souffle pour nos villes et en quoi permettrait-il d'améliorer leur durabilité ? Quels sont les pays, les villes qui se montrent particulièrement inventifs en la matière et quelles sont les opportunités mais aussi les obstacles de l'urbanisme souterrain ? Et d'ailleurs, quelles sont les réalités qui s'y rattachent ? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin avec une petite toux Bruno Barocca. Bonjour Bruno Barocca.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes maître de conférence en génie urbain à l'Université de Paris-Est Marne-la-Vallée. Vous avez co-dirigé Penser la ville et agir par le souterrain qui était paru aux presses des ponts en 2014. Alors d'abord, c'est vrai qu'on l'entendait un petit peu dans ce son, dans cette belle archive montréalaise. C'est vrai que la ville souterraine, elle fait aussi l'objet de fantasmes. On imagine y vivre plusieurs jours sans avoir besoin, on l'entendait, de remonter à la surface. Mais en tout cas, force est de constater qu'en réalité, dans les faits, les urbanistes ont assez peu penser le sous-sol dans le développement urbain, outre les tunnels évidemment pour faire passer essentiellement les métros. Cet espace souterrain, il a été jusqu'ici relativement ignoré dans la planification urbaine. Est-ce que d'abord c'est votre avis également et comment l'expliquer, Bruno Barocca?
Comment l'expliquer? Les raisons sont certainement multiples. En tout cas, je vous rejoins totalement sur l'ignorance dans la planification urbaine de la dimension souterraine. Les causes sont à chercher certainement du côté de l'invisibilité de cet espace et du côté de son aspect un peu technique. Il est souvent réservé à des dimensions techniques. La ville, c'est des formes urbaines, c'est de l'architecture, c'est des citadins, c'est des activités, etc. Mais tout ça s'appuie sur un réseau, support technique. Il faut qu'il y ait des flux qui passent dans cette ville et la dimension souterraine est extrêmement utilisée pour supporter ces infrastructures. D'un autre côté, elle est concessionnaire par concessionnaire. Et quand ça devient des espaces, c'est souvent des objets architecturaux qui, en fait, utilisent en partie la profondeur, soit pour des aspects techniques, genre le parking que l'on connaît tous, soit pour des aspects un peu plus intéressants. Je pense qu'il y a un certain nombre d'auditoriums qui sont dans des espaces souterrains et de centres commerciaux également. Mais ça reste des objets ponctuels.
Je le rappelais dans mon introduction, c'est vrai que évidemment le monde a connu une urbanisation absolument galopante ces dernières années. Aujourd'hui, plus de la moitié de la population mondiale vit dans les villes, et cette tendance évidemment est vouée à se poursuivre, ce qui constitue bien sûr une préoccupation majeure, puisque les espaces non urbanisés de facto sont de plus en plus menacés. Il y a une urgence absolue, Bruno Marocca, justement à mieux penser l'urbanisation dans un souci d'optimisation des territoires, évidemment. Et dans cette quête, il vous semble que les sous-sols seront demain absolument incontournables pour les urbanistes ?
Les sous-sols, ils offrent déjà un potentiel quasi infini de volume. Donc on peut y mettre énormément de choses. Tout ce qu'on met en sous-sol, on le libère de la surface. Donc si on veut garder de la surface libre, il faut peut-être plus investir le sous-sol. Alors c'est de nombreux exemples, et je pense parmi les plus intéressants, sur Paris, c'est le Louvre qui se développe énormément en surface pour permettre que la surface, en souterrain plutôt, pour permettre de dégager la surface. C'est également les Halles, c'est également le centre Georges Pompidou, l'IRCAM, etc. Et donc le premier élément est quand même de libérer la surface dans des villes où le climat est relativement tempéré. Donc on a un gain qui est très fort là-dessus, parce que la surface, c'est aussi l'urbanité.
Vous disiez des espaces quasiment infinis. Précisément, rien n'est infini sur Terre, et c'est l'une des choses qui fait prendre conscience aux hommes, en tout cas qui devrait nous faire prendre conscience de l'importance de gérer durablement justement nos ressources, et peut-être aussi de penser durablement nos villes. Est-ce que cette urbanisation souterraine, Bruno Marocca, elle peut contribuer à rendre nos villes plus durables?
Oui, j'en suis convaincu. Alors, effectivement, les espaces sont pas infinis, mais si on prend la station à Villejuif du Grand Paris Express qui est en construction, elle est à 49 mètres de profondeur. Un immeuble haussmannien, c'est entre 12 et 20 mètres. Donc on voit qu'on va dans une profondeur qui est plus de deux fois les gabarits dont on a l'habitude au niveau du sol. Ça veut dire qu'il y a un potentiel énorme de développement. Après, la profondeur, elle est un élément important de l'urbanisation souterraine. Quand on est à 50 mètres de profondeur, c'est pas la même chose que quand on est à 5 mètres. Il y a des temps de sortie et d'accès qui sont plus longs. Et puis, il y a un isolement qui est beaucoup plus fort. Quand on est juste sous la surface, on peut trouver un certain nombre de puits de lumière et de liens avec la surface. À 50 mètres de profondeur, c'est quand même plus difficile.
On va revenir évidemment sur ces défis, j'allais dire techniques quasiment, mais on l'entend très bien dans votre bouche. Très clairement, les sous-sols vont contribuer, ou en tout cas devraient contribuer à faire émerger cette ville durable. Ça, c'est pour la théorie. Qu'en est-il de la pratique? Est-ce que vous avez le sentiment que les politiques ont pris précisément conscience de l'importance de remettre peut-être au cœur du développement urbanistique le sous-sol? Et je pense peut-être en particulier à l'Union européenne, parce que d'une certaine manière, elle va aussi imprimer, disons, un rythme dans ses politiques urbanistiques. Récemment, il y a un rapport qui a été publié, et là on retrouve nos enjeux du développement durable. Un rapport européen qui s'appelle Europe 2020, une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Que dit précisément ce rapport, en particulier sur la question urbanistique? Est-ce que le fameux tournant de l'urbanisation souterraine dont on parle est pris en considération dans ce rapport?
Il me semble pas, d'après les éléments que j'ai eus sur ce rapport, il me semble pas que la dimension souterraine soit prise à la hauteur, en tout cas, de ce qu'elle pourrait offrir. Encore une fois, la question de la typologie des souterrains, c'est des espaces souterrains. Elle se définit par la position par rapport au sol. par la profondeur de l'ouvrage. Quand je dis la position par rapport au sol, c'est à quelle profondeur commence l'ouvrage. Est-ce que c'est juste sous la surface ou est-ce qu'il commence 50 mètres plus bas? Au nombre d'étages que vous avez sur votre ouvrage que vous allez développer. Et puis, ça, c'est plutôt une partie objet. Et puis, quand vous arrivez sur des questions de ville, vous avez l'envergure de votre projet. Alors, soit c'est le projet isolé, soit c'est un projet lié à une station de métro ou d'accès, et donc vous avez des choses qui peuvent se développer, genre des centres commerciaux, soit vraiment des réseaux piétonniers intérieurs comme on peut trouver à Montréal, et qui sont pas forcément, on va dire, c'est des alternatives à la ville qu'on connaît tous, mais qui sont pas forcément que des éléments souterrains. À Montréal, il y a des émergences, il y a des choses qui sortent. Et puis, vous avez des villes comme à Calgary ou à Minneapolis où ces réseaux piétonniers intérieurs sont quasi totalement aériens. Donc, ce réseau devrait, en tout cas, à mon sens, offrir plus d'alternatives dans des villes où la densité le permet. Puis, enfin, on a vraiment ce qu'on appelle les villes intérieures, qui sont des réseaux piétonniers qui marchent en symbiose avec la ville de surface. Alors, on les appelle villes intérieures parce qu'en fait, au-delà des réseaux piétonniers, ce sont des villes, c'est-à-dire que dedans, vous allez trouver des loisirs, des commerces, des activités. Donc, ce sont des parties animées de la ville. Et donc, c'est une ville intérieure qui vit en symbiose avec une ville extérieure.
Alors, et quand on pense ville intérieure, on pense évidemment à Montréal, mais il y a aussi peut-être d'autres exemples. Tokyo, par exemple, où là aussi, on a des milliers de sites souterrains. Il y a évidemment le système de métro, mais il y a aussi des complexes commerciaux, il y a de longs passages souterrains, il y a Séoul également. Pourquoi ces villes en particulier? Au fond, quels sont les éléments qui ont rassemblé les conditions de l'émergence de cet urbanisme souterrain? Est-ce que c'est un mode d'organisation des sociétés? Est-ce que c'est une volonté politique? Est-ce que ce sont des conditions climatiques? Qu'est-ce qui fait que ça émerge à ces endroits-là?
Je ne pense pas qu'il y a un élément qui soit déterminant. C'est vrai que Houston, Dallas, Chicago sont aussi des villes où il y a pas mal de souterrains. Je parlais de Calgary avec un réseau qui était, lui, plutôt aérien. Donc il y a effectivement des questions de climat. Après, il y a un certain nombre de freins aussi sur les questions économiques, sur les questions juridiques.
Justement, donc, je voulais y venir, parce que ça, c'est peut-être un élément. Effectivement, j'ai le sentiment quand même que ça se passe essentiellement dans des villes assez riches. Et quand on évoque les différents freins au développement de cet urbanisme souterrain, l'une des raisons, alors vous avez parlé de la difficulté technique évidemment, mais c'est aussi la raison économique, c'est-à-dire c'est son coût. Si on posait la question de façon assez brutale, Bruno Barocca, dans quelle proportion justement cette urbanisation souterraine est plus élevée que l'urbanisation, disons, de surface, pour le dire comme ça? Si on prend par exemple, je ne sais pas, un centre commercial, combien est-ce qu'il va coûter en plus si on l'enterre?
On peut poser la question différemment. Si on enterre un centre commercial et qu'il libère la surface, qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne? Quelle est la qualité de vie qu'on va gagner en surface? D'avoir, finalement, au lieu d'avoir une surface saturée par un centre commercial, si celui-ci se trouve en souterrain...
Oui, on libère de nouvelles potentialités.
Et qu'on a une place, qu'on a une vie, une vie urbaine qui peut s'installer, qu'est-ce qu'on y gagne? Et donc, si on regarde plutôt l'urbanisation souterraine, par rapport aux gains qu'on peut avoir par les espaces libérés, par l'intensité urbaine qui peut s'y développer, on aura un regard différent. Après, d'un point de vue économique, oui, l'urbanisation souterraine, elle est un peu plus chère. Ça a donné lieu à des débats dans le cadre du projet national qui se déroule actuellement, qui s'appelle Ville d'idées. Qui est très lié aussi à une approche durable de la ville, parce qu'il y a des aspects cognitifs qui sont développés, des aspects économiques, environnementaux et sociétaux. Sur le strict aspect économique, on s'aperçoit que c'est pas très favorable, surtout avec nos méthodes de calcul actuelles, c'est-à-dire juste le coût de construction ou presque. Maintenant, si on intègre là-dedans les coûts d'exploitation, si on intègre le fait qu'on est dans un milieu qui est finalement tempéré, naturellement tempéré, le calcul économique est beaucoup plus difficile à faire. Mais je suis pas sûr que sur du long terme,
j'entends parfaitement ce que vous avancez, c'est-à-dire qu'effectivement on libère de nouvelles potentialités en surface et ça c'est difficilement mesurable. Mais d'un point de vue purement économique, dans les coûts de construction, est-ce qu'on arrive à évaluer à peu près, je veux pas un chiffre très précis, mais c'est quoi, c'est facteur 2, c'est 1,5, c'est 3 fois plus cher, c'est
Je dirais aux alentours de 1,5. Peut-être
que
même
ça donne
un peu
une
moins.
Idée quand même. D'accord.
Il y a des chiffres qui ont été faits sur quelques bâtiments, comme je disais, dans le cadre du projet Vue de l'Idée. Je les ai plus exactement en tête, mais on est aux alentours de 1,5.
Dans cet ordre-là, ouais. Bruno Barocca, est-ce qu'il faut vraiment parler, comme je le fais depuis tout à l'heure, d'urbanisme souterrain? Comme on parlerait d'urbanisme de surface, est-ce qu'il faut parler plutôt d'aménagement souterrain permettant finalement de relier entre eux des entités architecturales et urbanistiques préexistantes, comme c'est exactement le cas à Montréal? Vous parlez, vous, d'urbanisme souterrain?
J'essaie de ne pas trop employer le terme. Déjà, souterrain, comme je disais un peu en introduction, c'est difficile à définir parce que quand on est à moins 50 mètres, on n'est pas du tout dans le même espace que quand on est à moins 5 mètres ou moins 10 mètres. Et puis, ça oppose un peu une ville souterraine d'une ville qui serait de surface. On parle pas d'urbanisme aérien. Pourtant, quand on est au-dessus d'une tour d'immeuble, on est loin de la surface et on est totalement déconnecté de la ville de surface, comme quand on est en profondeur.
Mais cette question, Bruno Barocca, elle est importante parce qu'elle pose aussi la limite de ce qu'on peut faire ou pas en matière d'aménagement souterrain. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire tout ce qu'on fait comme on le fait à l'air libre, des grandes tours avec des bureaux, des logements, ou est-ce qu'il faut penser différemment cet urbanisme qui serait spécifique?
À mon avis, c'est un gros problème de la pratique actuelle de l'urbanisme. C'est-à-dire qu'on essaie de mettre tout et partout. Mais c'est la même chose qu'un autre thème qui m'intéresse, qui sont les espaces inondables. C'est-à-dire, peut-on faire de la ville telle qu'on l'a fait dans des espaces non inondables, dans des espaces inondables? Peut-on faire de la ville telle qu'on sait la faire en aérien, dans des espaces souterrains? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais encore faudrait-il s'attacher à mieux comprendre qu'est-ce qui fait la qualité d'un espace souterrain par rapport au programme urbain qu'on place actuellement.
Oui, mais par exemple, Bruno Barocca, si on dit les choses concrètement, beaucoup de personnes s'imaginent très bien vivre dans des tours, d'autres non. Je pense que ça serait plus difficile d'imaginer de vivre, d'avoir des logements en souterrain.
Peut-être. Dans l'espace souterrain, vous avez, vous me faites douter parce que quand on pense à un projet comme l'université de Séoul de Dominique Perrault, c'est un bâtiment souterrain. De même, la bibliothèque François Mitterrand est souvent annoncée comme un bâtiment souterrain. Ceci dit, ça s'ouvre. La bibliothèque François Mitterrand s'ouvre sur un parc quand vous êtes dans les niveaux bas. C'est des lieux très agréables où il ferait très bon vivre, je pense. Et l'université de Séoul offre des espaces qui s'ouvrent sur une grande vallée, puisque Dominique Perrault l'appelle ainsi, et qui sont aussi des espaces extrêmement agréables.
Donc, il y a souterrain et souterrain, c'est ça que vous êtes en train de nous dire, parce qu'effectivement, la bibliothèque François Mitterrand, les trois quarts se situent sous le niveau de la Seine, l'université de Séoul, effectivement. On a encore un autre exemple, justement, d'édifice qui a été pensé par Dominique Perrault, c'est le Vélodrome Olympique de Berlin, dont on ne voit depuis l'extérieur que les toitures. Écoutez, on va retrouver justement Dominique Perrault, extrait d'un reportage qui avait été diffusé sur Arte, écoutez.
J'ai toujours considéré le mouvement moderne comme un mouvement extrêmement puritain. Avec la notion de pilotis, je ne touche pas le sol. C'est-à-dire, je pose toujours les éléments par rapport à une structure qui me sépare du sol. Comme si le sol était un élément de souillure. C'est dans Tournier, lorsque Tournier écrit Robinson Crusoé. Robinson Crusoé fait l'amour avec la terre. Il fait pas l'amour dans l'air. Donc, pour moi, la notion de terre est quelque chose qui permet d'aller au-delà du puritanisme du mouvement moderne et d'introduire une relation qui n'est pas seulement une relation de géographie, mais aussi et d'histoire, parce que nous venons de cette terre, nous avons habité dans cette terre, mais aussi une relation de retrouver au cœur de la terre cette espèce de possibilité de création de lieux inédits.
Voilà, extrait de ce documentaire diffusé sur Arte avec la voix de Dominique Perrault, un documentaire consacré justement à ce campus de cette université de Séoul, pensé, imaginé par Dominique Perrault, l'architecte, qui accuse là le mouvement moderne en architecture de ne considérer le sol, le souterrain, que comme une souillure. Est-ce que vous diriez, Bruno Barocca, que finalement Dominique Perrault eh bien, incarne d'une certaine manière un mouvement qui est en train de naître chez les architectes, qui en ont un peu fini avec la verticalité des tours et qui ont tendance de plus en plus à s'ancrer davantage dans le sol et dans le sous-sol.
Je pense que Dominique Perrault a la particularité d'avoir expérimenté une architecture qui s'ancre dans le sol dès ses premiers projets. Et c'est pour moi l'architecte le plus remarquable sur ce point. C'est de l'architecture, c'est pas de la ville qui produit des bâtiments tous aussi somptueux les uns que les autres dans leur rapport au sol et au souterrain. Mais cela reste de l'architecture. Même lorsque l'université de Séoul, par exemple, la dimension souterraine, elle est induite aussi par le fait de permettre de relier en surface des éléments urbains. Et donc, au lieu de créer un bâtiment qui serait finalement une barrière, il crée un bâtiment qui a un lien par la surface qu'il dégage et par les cheminements qu'il permet sur le bâtiment. Mais Dominique Perrault intervient essentiellement sur des objets. Et de manière tout à fait remarquable.
Et je reviens à la question du départ, Bruno Barocca, celle de la question de l'environnement et de la durabilité de nos villes. Concrètement, quels sont les avantages de ce type d'édifice en matière environnementale, sur le plan énergétique par exemple?
Sur le plan énergétique, le souterrain est un milieu tempéré. Donc on a très peu de variabilité de température à l'extérieur. Il permet aussi, avec des techniques un peu plus modernes, on va dire, de récupérer la chaleur dans son environnement. Sur le plan énergétique, il a des qualités certaines. Faut pas oublier que historiquement, c'est quand même le lieu de conservation, le lieu de protection.
Bien sûr. Est-ce qu'on peut faire de l'urbanisme souterrain absolument partout, ou est-ce qu'il y a des obstacles pour le coup techniques qui empêchent? Je pense évidemment à la nature des sous-sols qui, dans certains cas, empêcherait totalement de faire de l'urbanisme souterrain.
C'est plus simple de faire à Helsinki que à Amsterdam. Amsterdam avec un sol sablonneux, plein d'eau, etc. C'est plus compliqué.
Oui, la question de l'eau, de la gestion des eaux, de ces écoulements, c'est le défi majeur en réalité.
Oui, parce que il y a la dimension de l'ouvrage souterrain que vous allez construire, et puis pour le construire, vous allez devoir rabattre les nappes, etc. Et souvent, ça déstabilise un peu les ouvrages qui sont autour dans des villes comme Amsterdam, où tout est fondé sur un sol sablonneux gorgé d'eau. Donc il y a on voit les difficultés qu'ils ont eues quand ils ont mis en place ces métros, les lignes souterraines. Donc effectivement, il y a des lieux de par la nature du sous-sol qui s'y prêtent mieux que d'autres. Pour moi, j'ai un peu l'impression que les ingénieurs savent quand même à peu près tout faire. Forcément, il y a une dimension économique qui est à ajuster, mais pour moi, la principale, on va dire le principal frein, ça serait est-ce que la ville de surface a vocation à se développer sous sa surface. S'il n'y a pas une certaine densité, j'en vois pas trop l'intérêt, sauf sur des climats particulièrement hostiles.
Le défi technique, si les conditions urbanistiques sont là, on peut le relever. On parlait de dégâts des eaux, ça fait penser évidemment au Japon, où là les ingénieurs par exemple ont construit un immense souterrain anti-inondation pour évacuer les surplus d'eau. Après quelques cette année où il y a eu des inondations très difficiles qui avaient demandé d'évacuer des milliers de personnes, je pense à 1982 notamment, le Japon avait décidé, les autorités nippones avaient décidé de construire ce fameux système, le Metropolitan Outer Underground Discharge Channel, qu'on appelle le projet JCAN, qui est le plus grand système anti-inondation du monde. D'ailleurs, quand j'invite vraiment les auditeurs à aller voir des images, moi j'ai découvert ça hier en préparant cette émission, c'est absolument incroyable, les images de ce projet-là. Et ça a été d'ailleurs une véritable prouesse technique, ce qui va dans votre sens, Bruno Barocca. Finalement, quand on a l'ambition de faire et qu'on a besoin de le faire, et dans le cas de Tokyo, évidemment, on comprend, la densité de cette ville est absolument considérable, eh bien on le fait.
Oui, alors, votre exemple, il donne encore une fois une dimension technique au souterrain. L'enjeu, c'est quand même de lui donner une dimension urbaine, je pense. Il est dommage que la ville ne puisse plus fonctionner avec les eaux, qu'elle se déconnecte de plus en plus de son territoire et de son environnement naturel. Par contre, je pense qu'il serait très intéressant qu'elle s'y intéresse en tant que espace urbain, espace à vivre, espace à développer, par rapport à des activités urbaines.
Encore un petit mot, et puis on retrouvera dans quelques instants, dans un très court instant, Aurel Pario, qui est avec nous par téléphone depuis la Suisse. Mais je reste encore un tout petit moment sur les questions techniques. Il y a évidemment l'ingénierie, mais il y a aussi, de façon plus générale, le secteur de la construction. Est-ce qu'il vous semble apte aujourd'hui à enclencher cette révolution, l'urbanisation souterraine, même si j'ai bien compris que vous n'aimiez pas tellement cette expression, permettez-moi de l'utiliser quand même. Est-ce que les acteurs finalement de la construction ont les moyens techniques, humains, organisationnels de penser justement cette nouvelle forme d'urbanisme?
Sans aucun doute. C'est bon, ils sont prêts. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Ils savent. Et sur ce point, les acteurs français sont même assez performants.
En avance ?
Ils sont plutôt bien placés. Oui.
Il y en a d'autres qui sont un peu en avance, semble-t-il, sur cette question-là. C'est la Suisse et on va la retrouver justement. On est avec Bruno Barocca, maître de conférence en génie urbain à l'Université de Paris-Est, Marne-la-Vallée, dans cette série consacrée au monde souterrain. Aujourd'hui, la ville souterraine au cœur du développement durable. Direction la Suisse.
France Culture.
Lausanne Gare.
Culture Monde, par Florian Delorme.
Et oui, Lausanne Gare, on va dans les sous-sols suisses retrouver Aurel Pario. Bonjour Aurel Pario.
Bonjour.
Bonjour, merci infiniment d'être avec nous en direct. Vous êtes géologue hydrogéologue, directeur du projet Deep City dont on va parler ensemble. Alors, vous êtes l'un des grands spécialistes en Europe de cet urbanisme souterrain. Vous portez donc ce projet Deep City qui vise à montrer finalement comment utiliser de manière optimale la richesse du sous-sol au service de la ville de surface. Est-ce que vous pouvez nous présenter quand même en quelques mots ce projet Deep City qui en réalité n'est pas, et plus finalement une nouvelle méthodologie dans l'approche du sous-sol, plus qu'un projet urbanistique à proprement parler, et nous dire comment, quand est-ce qu'il est né ce fameux projet Deep City? Aurel Pario.
Alors ce projet, c'est une idée de géologue, par le fait que j'ai été confronté assez souvent à des processus d'aménagement du territoire urbain dans lesquels les urbanistes ignoraient totalement ce qui était en dessous de leurs pieds. Or, les géologues connaissent assez bien la nature des sous-sols urbains. Et par rapport à ce qui a été dit jusqu'à maintenant, on a voulu d'emblée mettre l'accent sur une notion non seulement géométrique de ces questions de construction souterraine, mais conscient de la très grande diversité de ce qui constitue le sous-sol. On peut dire que le sous-sol, c'est à la fois le meilleur et le pire, selon dans quel niveau géologique on se trouve. Donc, c'est pas seulement la question d'être à moins 5 mètres, moins 10 mètres, moins 50 mètres. C'est surtout la question de savoir comment est constitué ce sous-sol et quelles sont ses propriétés et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire d'intelligent avec pour rendre service au développement durable de la ville. Donc c'est cette composante-là, et pour nous avons identifié la 4 ressources principales de richesse qui est dans le sous-sol. Alors l'espace, là vous en avez suffisamment parlé avec M. Barocca, on est assez conscient de ce qu'on peut faire là-dedans pour les différents usages. Mais ensuite on a aussi des ressources d'énergie, notamment avec la géothermie qui se développe beaucoup, tant pour produire du chaud que pour produire du froid. On a également les matériaux qu'on extrait quand on creuse dans le sous-sol, qui est un problème important au point de vue de la valorisation de ces terrains, et également l'eau potable, parce qu'on a passablement de villes qui ont des ressources en eau potable qui sont pas contaminées par les eaux de surface, donc les pertes des égouts et tout ça.
Oui, donc on a ces quatre ressources.
Ça, le départ de l'approche, et c'était à l'occasion d'un métro, d'un RER à Genève, qui s'appelle le CEVA, où il y a justement eu deux notions qui se sont affrontées là-dedans. Le passage en souterrain, qui était en plein dans une nappe souterraine, et une autre variante qui respectait cette nappe souterraine. Et là, j'ai été mandaté comme expert pour essayer de convaincre les citoyens de la ville d'accepter une solution qui respecte ce devenir d'eau potable qu'on va utiliser pendant encore des centaines d'années.
Donc il y a ces quatre ressources effectivement contenues dans les sous-sols, l'espace, les géomatériaux issus des travaux, l'énergie géothermique et puis les eaux potables. Et puis ensuite vous introduisez une matrice qui permet de mettre en évidence les interactions entre ces quatre ressources et les conflits potentiels qui en ressortent. C'est assez technique mais pas insurmontable, dites-vous, Aurel Pariot. Et l'enjeu c'est finalement de rassembler les ressources matérielles et humaines pour articuler justement les différents secteurs. Mais l'un des constats que vous avez fait, c'est aussi que les conséquences, et vous nous le disiez un petit peu au début de cet entretien, les conséquences des erreurs dans l'aménagement des souterrains sont plus irréversibles finalement que lorsqu'on travaille en surface. Les dégâts finalement sont plus problématiques. Et là, il y a des exemples particulièrement probants, particulièrement notables, qui montrent ces erreurs qui ont été effectuées par le passé et leur caractère irréversible. Alors il y a le cas de Paris, mais il y a aussi par exemple le cas de Mexico qui est intéressant à regarder.
Oui, tout à fait. Alors, dans notre projet de recherche, on a commencé à apprendre ce qui avait été fait dans ces villes qui ont déjà mis en valeur leur sous-sol d'une manière plus ou moins harmonieuse, en étudiant, en somme, surtout quelles étaient les raisons méthodologiques de ces erreurs. En effet, si vous construisez une tour qui est mal fichue, c'est facile à la raser, à en construire une autre. En fait, un sous-sol, on n'en a qu'un, c'est la géologie qui le fixe. Et les erreurs à réparer dans le sous-sol, hein, une fois qu'un tunnel est creusé, on peut pas remettre en place la roche telle qu'elle était. Donc bon, il y a des techniques qui permettent quand même de minimiser ces effets long terme qui sont pernicieux. Mais ce qu'on préfère, nous, c'est plutôt faire une phase d'optimisation dans l'optique d'un développement durable et essayer d'éviter de faire des erreurs. Et de penser très en avant sur les ressources qu'on aura à utiliser dans 50 ans et ne pas inhiber une possibilité qui sera certainement utilisée dans 50 ans et être massacrée par un ouvrage, par exemple un métro qu'on fait en plein dans une couche aquifère et qui va prohiber toute utilisation d'eau potable pour les siècles qui viennent.
Oui, là, vous pensez, donc, sans le dire, à Mexico City. C'est exactement ce qui s'est passé, parce qu'il y avait effectivement d'énormes réserves d'eau, ces fameux aquifères. Or, on les a totalement gâchés en faisant passer justement le réseau de transport souterrain. Et aujourd'hui, Mexico City fait face à des problèmes d'eau absolument considérables, qu'on aurait pu éviter si on avait envisagé une approche différente.
Des problèmes d'eau, puisque la surface du sol s'est tassée.
Absolument, quasiment 10 mètres sur certains.
Alors, vous imaginez un peu toutes les conséquences que ça a, notamment puisque c'était une ville qui était implantée dans un marais, il y avait des canaux dans le temps, ben, les canaux ils coulent dans le faux sens aujourd'hui, parce que c'est le centre-ville qui s'est abaissé de 9 mètres. Ça donne lieu à un bouleversement au point de vue hydrologique qui est très important, mais aussi au point de vue énergétique, bien entendu. Donc, c'est clair que le cas de Mexico, c'est typique de ces villes qui croissent très, très rapidement et les autorités courent toujours après les urgences. Ils n'ont jamais le recul nécessaire pour faire une véritable planification. Mais il faut le faire, même si on est tard, même s'il y a des choses qu'on aura de la peine à réparer.
Vous restez avec nous, Aurel Pariot. J'ai encore quelques questions, si vous le permettez, à vous poser, mais je voudrais faire réagir Bruno Barocca. Évidemment, vous connaissez Bruno Barocca, ce travail Deep City, engagé par Aurel Pariot et ses équipes. C'est évidemment une nouvelle approche de l'aménagement souterrain qui est extrêmement intéressante.
Oui, tout à fait. Alors, je vais me dire plus pour moi, c'est en découvrant Deep City que je me suis intéressé au souterrain, notamment parce que à travers les quatre vecteurs qu'explore Deep City, il y a aussi toute la question des conflits que peut apporter une dimension sur l'autre. Et donc on voit assez vite que la planification est l'élément qui pourrait permettre de réguler un peu ces conflits, et donc que la dimension souterraine devrait apparaître dans les schémas directeurs, dans les questions de planification, alors qu'elle est étrangement absente. Il y a l'autre phase que j'ai découvert par rapport aux présentations d'Aurel Pariot notamment, qu'il avait pu faire sur Paris, c'est la dimension de la donnée. La difficulté d'obtenir les données qui vont permettre de faire ces planifications, voilà. Et puis ce que Aurel Pariot a travaillé sur les questions d'espace souterrain, et les a travaillé aussi avec un architecte très intéressant que j'avais eu l'occasion de croiser, qui s'appelle Pierre Van Meys et qui a fait un livre fabuleux qui s'appelle 20 milieux sous les terres. Et donc ce monde est relativement petit. Et je pense que il n'y a pas de grande controverse entre nous, c'est-à-dire qu'on se rejoint assez rapidement sur l'ambition que devrait avoir la ville sur les questions de planification,
vous
et
êtes,
pas
vous,
que la
vous
ville.
Vous êtes d'accord, vous faites front, effectivement, mais cette ambition, elle se heurte aussi à des réalités, Aurel Pariot. Et là, je me retourne vers vous. Et ces réalités, elles sont pas seulement techniques, elles sont pas seulement économiques, elles sont aussi juridiques. Ce que vous semblez dire, en tout cas dans de très nombreux cas, c'est que pour adopter, finalement, appliquer cette nouvelle approche que vous proposez, ça passe le plus souvent par la mise à plat de nouvelles lois qui permettent justement d'envisager différemment ces sous-sols, Aurel Pariot.
Alors, les lois dépendent énormément du contexte. Donc là, je l'ai étudié surtout pour la Suisse. Et heureusement, en Suisse, on a un règlement dans le Code civil, on a un article qui est assez vague, mais qui nous rend beaucoup service et qui dit que l'emprise d'un propriétaire sur son terrain par rapport au sous-sol, il va pouvoir utiliser le sous-sol pour des usages qui sont en accord avec le devenir et la vocation de sa parcelle. Donc ça veut dire, en d'autres termes, que pour une villa, il va pouvoir faire un sous-sol, pour un bâtiment plus important urbain, il va peut-être pouvoir faire 2-3 sous-sols. Mais il va pas avoir, comme en France, le droit de coloniser son sous-sol jusqu'au centre de la terre. Et c'est clair que ces choses-là dépendent beaucoup d'un pays à l'autre. Alors, pour la Suisse, la méthodologie du City, elle implique pas de modification de la loi. Ce qu'on veut faire et ce qu'on essaye de faire, c'est de faire introduire dans la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, qui est en révision à plusieurs reprises, c'est d'introduire un article qui dit que les aménagistes, ces gens-là, doivent intégrer la dimension souterraine dans le processus d'aménagement. Donc ça nécessite qu'il y ait une phase de rattrapage où on introduit les données géologiques sous forme de modèles tridimensionnels, et on peut attribuer à ces différents volumes des vocations, notamment de dire dans tel ou tel volume, on va pouvoir autoriser ceci et cela en synergie. En revanche, le troisième usage sera proscrit, etc. Donc on arrive à guider les promoteurs et en même temps les gens qui font l'aménagement vers des solutions qui sont harmonieuses et d'autres qui évitent justement les conflits potentiels du futur. Et là, dans le cas de la Suisse, donc heureusement, cet article, il est assez bien fait pour nous donner la souplesse nécessaire et garder pour la collectivité publique la possibilité de la grande majorité du volume géologique qui est sous la ville.
Bruno Barocca, en revanche, pour la France, si la France voulait suivre l'exemple de la Suisse, il faudrait changer le statut juridique des sous-sols.
Oui. Le modèle n'est pas calcable de manière identique, mais je pense qu'on peut faire déjà beaucoup de choses avec les possibilités qu'on a, pour autant qu'on s'y intéresse. On a des schémas directeurs qui nous permettent, on a un schéma directeur de la région Île-de-France par exemple, où la dimension souterraine est trop peu présente, pour pas dire qu'elle n'est pas présente, elle l'est que vraiment ponctuellement sur certains petits passages, mais
est-ce qu'il y a des points qui vous sembleraient absolument incontournables à modifier justement dans la loi, pour justement améliorer, optimiser d'une certaine manière cette urbanisation souterraine?
Non, je pense qu'on peut faire avec.
Aurèle Pariot, peut-être encore une dernière question, parce que la Suisse, on l'entend, apparaît assez pionnière dans la planification du sous-sol, aussi bien du point de vue des textes juridiques dont on parlait, que de la façon dont on appréhende justement ces sous-sols, et on l'entend à travers votre projet Deep City. Comment le comprendre? Est-ce que ce sont des raisons liées à la nature finalement des villes suisses? Est-ce que c'est un certain rapport à l'aménagement, au sous-sol? Comment comprendre ça? Pourquoi la Suisse est aussi pionnière en la matière, dans cette planification du sous-sol, Aurèle Pariot?
Oh, c'est pas la Suisse qui est pionnière. La Suisse a toujours été assez en avance pour les questions de protection du territoire, au point de vue des lois environnementales. Mais disons, le progrès qu'on a fait avec Deep City, il provient du fait que le Fonds national de la recherche scientifique a lancé un projet prioritaire sur... l'environnement construit. Il s'est trouvé qu'il y avait à peu près 200 idées de projets qui étaient soumises, et la nôtre était la seule qui traitait du dessous de la ville. Tout le reste, c'était des considérations plus classiques sur le devenir de la ville de surface. Et le chef de l'Office fédéral du développement territorial a jugé que c'était vraiment un manquement, que chaque fois on ignore cette dimension, et ils ont poussé pour que notre projet soit retenu. On a pu avoir de l'argent pour développer 2 thèses de doctorat, et ensuite on a pu faire un projet avec les Chinois sur la ville de Suzhou, et puis on a encore pu faire une 4e thèse avec Monsieur Doyle là, sur d'autres villes de par le monde, et ça a donné une dynamique qui a intéressé tout de suite les gens en Suisse, mais aussi en international, parce que j'ai eu l'occasion de présenter ça dans différentes associations, et ça intéresse autant les Asiatiques que les Européens et les Américains. C'est un peu plus difficile en Afrique, et c'est pour ça que dans la dernière thèse, on a étudié aussi le cas de Dakar, pour montrer que même avec des faibles moyens, on arrive à faire quelque chose d'intelligent en direction de la minimisation des conflits du futur.
Merci beaucoup Aurèle Pariot d'avoir été avec nous ce matin en direct. Je rappelle, géologue, hydrogéologue, directeur de ce projet Deep City. Vous parliez de l'Afrique, effectivement. Les villes du Nord ne sont pas les seules à miser sur le sous-sol pour organiser la vie de la ville de surface. Direction l'Algérie. L'Algérie, avec le cas de la ville de Constantine, au nord-est du pays, dont la place du 1er novembre, ancienne place de la Brèche, en référence à la brèche provoquée par les bombardements de l'armée française qui s'était emparée de la ville en 1837, eh bien, cette place abrite des souterrains qui constituent un lieu stratégique du point de vue social et économique. Le marché communal, le marché Boumezou, d'ailleurs ces dernières années, ils ont été plusieurs fois le théâtre d'incendies. Le dernier, c'était il y a une dizaine d'années, qui avait provoqué la colère des commerçants qui y travaillent. Il faut dire que c'est un haut lieu économique de la ville. On va essayer de comprendre comment ici qu'ils s'organisent. Et pour ce faire, nous retrouvons depuis Constantine, Ariane Ouria. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci infiniment d'être avec nous ce matin en direct. Vous êtes architecte, urbaniste, enseignante à l'université Constantine III. Vous travaillez, vous, sur la ville du futur, l'habitat de demain, et notamment sur l'usage de la technologie, de la domotique. Mais évidemment, cette ville souterraine, elle est présente dans votre quotidien, et ce, depuis longtemps. Alors d'abord, on va essayer de présenter peut-être un peu les choses, Ariane Ouria. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est finalement à Constantine, ce que tout le monde appelle les tunnels là-bas, hein, des dizaines de ruelles souterraines sous cette fameuse place dont je parlais, Ariane Ouria?
Exactement. Alors ce sont des lieux souterrains. C'était au temps où la ville souterraine était un peu à la mode. Donc il y a une morphologie de la ville de Constantine et une ouverture qui ont mené à cette solution. effectivement, c'est appelé les tunnels, mais ce sont des lieux souterrains, ce sont des lieux de paradoxe au niveau de la place de la Brèche, telle que vous l'avez présentée, effectivement. C'est un nouveau mode d'appropriation, c'est un fonds qui sert de comble à la ville de Constantine, qui est une ville un peu singulière de par son site, de par son pittoresque, de par son intégration sur un rocher. Donc la place de la Brèche est un peu la place de connexion entre la vieille ville et l'extension de l'époque coloniale. Et là, c'est une nouvelle façon d'occuper l'espace. En fait, ces espaces ont été créés pour résoudre un problème de circulation mécanique au niveau de ce nœud névralgique. Et au départ, c'était une réponse, je veux dire, technique pour solutionner un peu le problème de la circulation.
Ce que ça a fait en partie, mais c'est surtout que, d'une certaine manière, aujourd'hui, c'est devenu un lieu marginalisé. C'est un lieu où il est assez difficile de circuler, vous le racontez très bien dans votre article, où règne un joyeux chaos, voire carrément une certaine violence parfois, avec une hygiène qui laisse parfois aussi à désirer, ce qui est embêtant quand il s'agit de vendre des denrées alimentaires. Mais tout ça est aussi le signe que la municipalité a précisément totalement délaissé ce lieu. C'est devenu un lieu informel qu'on a progressivement marginalisé ou laissé marginaliser, Ariane Auria.
Exactement, tout à fait. Alors la fonction de départ, c'était éviter le grand carrefour. Mais après, il y a eu un glissement spatial du marché noir vers un lieu qui était propice, qui était vraiment propice. Et là, on se retrouve avec le commerce informel, la mendicité. C'est devenu le déversoir de tout. En fait, c'est devenu aussi un lieu d'insécurité, un manque d'hygiène, un désordre, une densité, parfois véritablement un inconfort promiscuité. C'est-à-dire que ces tunnels ont été aménagés en 86, mais le fait que ça soit un point nodal qui réunit tout le monde, où tout le monde a droit de citer, tout le monde a droit de s'y retrouver, on s'est retrouvé donc avec on a approprier l'espace en cachant un petit peu tous ces aspects qui sont finalement tolérés, mais qui ne sont pas autorisés.
Oui, c'est la partie de la ville qu'on ne veut pas voir. Vous dites que cette économie illégale s'est imposée dans cet espace. Je vous cite, elle y impose un ordre social et urbain jusqu'à définir son territoire dans la ville. Quoi qu'illégal, dites-vous, cette économie a acquis un droit de cité. Elle est tolérée pourvu qu'elle ne se pratique pas à la lumière de la surface.
Exactement.
Au fond, ce qu'on voit très bien aussi là, c'est que ce lieu a émergé aussi parce que les autorités sont dans la capacité finalement à apporter des solutions sociales et économiques à la population. C'est aussi la raison d'ailleurs pour laquelle on laisse faire d'une certaine manière.
Tout à fait. Donc cela révèle l'envers de la marginalité des attitudes politico-sociales qui sont latentes. C'est une forme de consensus. En parallèle, c'est une forme d'urbanité nouvelle. On cache ce qu'on n'a pas envie de voir et on expose le politiquement correct. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que dans la face au-dessus de la terre, on a le politiquement correct, et en dessous, c'est-à-dire la scène urbaine est correcte, mais en dessous, on cache tout ce qu'on n'a pas envie d'exposer.
Vous restez encore avec nous, mais je voudrais faire intervenir Bruno Baraka. Vous voyez, c'est intéressant cet exemple, d'abord parce qu'effectivement, les villes du Nord n'ont pas l'apanage de l'aménagement souterrain, mais aussi parce que dans cette urbanité nouvelle dont parlait Ariane Auria, on voit que finalement, c'est tout ce qu'on ne veut pas voir à la surface, qu'on y loge.
Oui,
c'est évidemment tout ce que vous combattez, précisément.
C'est un prolongement des aspects techniques. C'est-à-dire, on a mis en souterrain tout ce qui est de l'ordre de l'assainissement, tout ce qui est des aspects techniques que l'on ne veut pas voir en aérien. Donc il y a effectivement d'autres facteurs en termes d'hygiène, etc. Mais globalement, on met dans le souterrain, même d'un point de vue technique, ce qu'on ne veut pas voir en surface.
Ce qu'on veut soustraire au regard en surface.
Voilà. Et là, donc, dans l'exemple cité, c'est la même chose, on va dire, pour l'informel. Mais c'est le même principe.
C'est le même principe. Ariane Auria, est-ce que les autorités ont eu l'ambition de transformer, de réaménager ce lieu pour peut-être le moderniser, pour en faire peut-être quelque chose de différent, Ariane Auria?
Pas du tout. C'est-à-dire, au niveau de Constantine, la majorité des Constantins... ignorent que sous le... En fait, il y a un réel marché qui est au-dessus. Il y a un réel, le marché Beaumézo est au-dessus. Au-dessus. Donc, au-dessous de ce marché, il y a comment on appelle ça, des vestiges, voilà, il y a des vestiges qui sont complètement ignorés, qui sont complètement cachés, qui sont quand même normalement à dévoiler, qui peuvent être réfléchis dans un contexte de préservation, de conservation, etc., mais qui sont complètement enfouis et cachés parce que c'est même une réserve pour les services d'entretien de la commune. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est complètement écarté. On n'expose que ce qu'on veut bien exposer.
Oui, parce que vous paradoxalement, à Rianoria, c'est un...
En extension de la brèche, vous avez une esplanade, c'est ce qu'on appelle l'esplanade de la brèche, qui est le support de l'activité de café, de crèmerie, etc. Et ces vestiges existent en dessous, ce sont des vestiges qui datent de très longtemps, je dirais, qui ont des vestiges du 3e, 4e siècle, les archéologues parlent du 3e siècle. Mais ce sont des éléments qui auraient pu contribuer quand même à un aspect très riche de la ville de Constantine, mais qui sont enfouis et ignorés complètement. C'est-à-dire que les politiques ne réfléchissent pas du tout à l'amélioration de cet état des choses.
Oui, on aurait pu effectivement le mettre en avant, parce qu'effectivement, paradoxalement, cet espace souterrain, il est rempli d'histoire. Il y a eu, vous le racontez dans votre article, dans l'Antiquité, un péribole, c'est cette enceinte sacrée située à l'extérieur des temples. On a ça au milieu du marché, quasiment, à Rianoria.
En dessous, dans les immondices du marché. C'est un édifice monumental qui a été hérité de l'Antiquité, qui date du 3e siècle, qui a été restauré au niveau du 4e siècle, mais qui a été complètement, caché, ignoré.
Merci beaucoup, Rianoria, d'avoir été avec nous ce matin.
Merci. En direct
depuis Constantine, architecte, urbaniste et enseignante, je le rappelle, à l'Université Constantine III. Well, I'm beginning to see the light. Some people work very hard, but still they never get it right. Well, I'm beginning to see the light. Wanna tell all you people now. Et un grand merci à vous, Bruno Barocca, de nous avoir accompagnés ce matin, de nous avoir éclairé, si je puis dire, sur ces villes souterraines, maître de conférence en génie urbain à l'Université de Paris-Est Marne-la-Vallée. Je rappelle que vous avez co-dirigé Penser la ville et agir par le souterrain, paru aux presses des ponts, c'était en 2014. On mettra bien sûr les références de votre ouvrage sur le site de France Culture, sur le site, la page de Culture Monde, de sorte à ce que les auditeurs puissent le retrouver et peut-être... se plonger encore davantage dans cette ville souterraine. Merci beaucoup, Bruno Barocca. Presque 53 minutes, l'heure de retrouver le monde des idées et Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Brice qui s'intéresse à cette crise de la social-démocratie et en particulier à la Grande-Bretagne cette semaine, la revue britannique Prospect consacre le principal dossier de sa livraison d'avril à la crise du Labour Party. L'historien Ross McKibben y compare le parti travailliste à l'apogée de sa puissance électorale en 1951 avec sa faiblesse actuelle. Principale cause du déclin, dit-il, la Grande-Bretagne n'est plus une nation industrielle et l'État s'est retiré de la production.
Oui, et le parti s'est éloigné du pouvoir en se radicalisant dans les années 80. Des sous-marins trotskistes du groupe militante qui était parvenu à noyauter certaines circonscriptions ont d'ailleurs été exclus du Labour en 1983. Et en 92, l'élection de John Smith à sa tête, à la suite d'une quatrième défaite consécutive aux élections générales face aux conservateurs, amorçait, semble-t-il, un tournant réaliste et réformiste. Mais le parti demeurait fidèle à sa ligne social-démocrate. Puis, survint Tony Blair et son New Labour, décidés à saborder une grande partie de l'héritage pour ravir le pouvoir aux conservateurs, ce qu'il fit. Adieu socialisme, bonjour progressisme. Et notre historien d'Oxford l'analyse comme une rupture avec les racines ouvrières du parti. Déterminé à capter le suffrage de la majorité des classes moyennes, le parti s'est révélé trop favorable au business et à la finance. Et sa nouvelle idéologie, l'ouverture, l'Europe, la mondialisation, a heurté de plus en plus d'électeurs traditionnels. Car une large partie de cet électorat, insiste Ross McKibben, est mal à l'aise avec l'Union européenne comme avec l'immigration. En 1975, les Britanniques ont voté oui à un référendum qui leur proposait de rejoindre le marché commun. Il n'était pas question alors d'union toujours plus étroite ou de libre circulation des travailleurs. Or, le gouvernement de Blair a accepté l'ouverture de son marché du travail aux immigrés en provenance des nouveaux États membres d'Europe centrale, alors que les Allemands, eux, avaient demandé un délai de 7 ans avant cette ouverture. L'immigration est un sujet embarrassant pour le Labour. Le problème, écrit McKibben, c'est que la Grande-Bretagne est devenue une nation d'immigration de manière furtive. Il n'y eut pas de décision prise, cela s'est juste passé. Mais du coup, la base sociale du Labour s'est encore rétrécie face à une évolution démographique qu'elle n'apprécie pas.
Et la crise actuelle du Labour, comment on l'explique, cet historien du mouvement ouvrier britannique,
Wes? Il s'est produit un phénomène assez rare, un divorce presque complet entre le groupe parlementaire travailliste et la base militante du Labour. À l'époque où Ed Miliband dirigeait le parti, on a introduit en effet une réforme de l'élection du leader par la base, dans un système qui d'ailleurs ressemble à nos primaires. Il faut payer 3 livres pour participer au scrutin et s'engager à voter donc pour le parti. Et c'est Jeremy Corbyn qui est sorti vainqueur de cette consultation. Mais les députés de la Chambre des communes, eux, dont l'adoubement est nécessaire, lui sont hostiles à une large majorité. Alors ce divorce entre les sympathisants et les élus paralyse le parti. La tentative de nommer un nouveau leader, aussi à gauche que Corbyn d'ailleurs, mais moins détesté des députés, Owen Smith, a échoué à l'automne dernier. Certains députés ne cachent plus leur tentation, la tentation qu'ils éprouvent de quitter le parti et de créer une nouvelle formation sur la droite du Labour de Corbyn.
Et alors, quelles seraient les chances électorales d'une telle formation issue donc de cette scission du Parti travailliste?
Très faible si l'on en croit un professeur de sciences politiques qui publie dans le même numéro de Prospect, John Curtis, un article. Il fait référence à un précédent récent, la création du Parti social-démocrate en 1981 par 4 dirigeants importants du Labour de l'époque, Roy Jenkins, David Owen, Bill Rogers et Shirley Williams. Leur expérience a vite tourné court. Aux élections de 1983, le SDP de ce nouveau parti n'a obtenu que 6 députés. C'est en effet que le système électoral britannique, uninominal majoritaire à un tour, est impitoyable envers les tiers partis. Si le groupe parlementaire travailliste actuel décidait de faire scission, le destin de ses membres serait probablement pire. À la différence de la bande des 4 fondateurs du SPD, les députés du Labour actuel sont des inconnus au niveau national. En outre, la situation est fort différente de celle que traversait la vie politique britannique au début des années 80. Il y avait alors un espace politique au centre-gauche, parce que le Labour était dans une dérive gauchisante et que Thatcher, elle, avait imposé au Parti conservateur un tournant à droite toute. En outre, le SPD avait trouvé un allié au centre-droit avec les libéraux. Les deux partis ont d'ailleurs fusionné en donnant naissance au Parti libéral-démocrate en 88. Aujourd'hui, les libéraux alliés aux conservateurs de Cameron sont en pleine déconfiture. Dans les sondages, les 2/3 des électeurs du Labour voteraient travailliste, quel que soit le leader. Il n'y a donc pas d'espace pour une nouvelle formation. Reste que le Labour traverse la pire crise d'identité de son histoire. Selon Julian Coman, qui publie une longue étude à ce sujet dans The Guardian, d'abord parce que son électorat a divorcé de la direction du parti. Ainsi, sur le Brexit, Corbyn avait adopté une position nuancée, rester dans l'Union afin de la réformer de l'intérieur en s'appuyant sur les autres partis de gauche en Europe, donc voter Remain. En réalité, sur les 232 circonscriptions travaillistes, l'écrasante majorité, 149, a voté Leave, en contradiction donc avec la direction du parti. La campagne du Labour est apparue, je cite, pas assez favorable au Brexit pour ceux qui ont voté Leave, mais pas assez europhile pour les partisans du Remain, et ils ont rejoint les libéraux démocrates en masse. Enfin, sur l'immigration, la politique libérale du Labour est, je cite, aux antipodes du consensus qui règne depuis longtemps dans ses propres bastions.
Merci beaucoup Brice Couturier. Suite de cette crise de la social-démocratie en Grande-Bretagne demain, Brice. Ça sera demain. Merci beaucoup. Dans quelques instants sur France Culture, on retrouve La Grande Table avec Olivia Gesbert. Ça sera dans un très court instant.